fait, quand j'ai reçu ce SMS, salut, est-ce que tu veux participer au jury du pâté en croûte? J'ai répondu au type, mais en fait, j'ai envie de faire que ça dans ma vie finalement. Parce que ça unit mes deux passions qui sont manger et juger.
J'ai commencé ma carrière en tant que poète, donc on me dit souvent, ah oui, mais ce que tu écris est poétique, et c'est un compliment, je sais. Mais en même temps, je pense qu'être poétique, enfin déjà, le mot poétique est très dangereux, et qu'à la limite, les gens qui écrivent mal causent moins de dégâts que les gens qui sont considérés comme ayant des belles plumes, et qui finalement se cachent pour ce style, pour ne rien dire. Et c'est dangereux, surtout parce qu'on croit que c'est ça la poésie, et c'est ça la bonne critique gastronomique.
Au-delà d'être simplement quelqu'un qui recommande des restaurants, ce qu'envisagent beaucoup de critiques gastronomiques, sur fond de j'aime, j'aime pas, le plus souvent j'aime d'ailleurs, il y avait dans cette déclaration éthique cette notion que, en fait, au-delà d'être quelqu'un qui recommande des restaurants à des futurs clients, le journaliste a aussi peut-être une mission de préservation, notamment, d'un certain patrimoine.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Manger et donner son avis. Je ne me souviens pas avoir vu ces deux compétences mises en avant dans les fiches ONICEP que la conseillère d'orientation nous montrait au lycée. Et pourtant, le métier de critique culinaire existe en France depuis le début du 19e siècle. Dans quel salon feutré cette activité est-elle née? Comment l'art de juger les plats des autres est-il devenu une profession? Et sur quels critères choisit-on de critiquer la nourriture, au juste? Quel est le sens des classements étoilés? À quoi riment ces grandes messes récompensant chaque année les soi-disant meilleurs restaurants au monde? Peut-on décemment hiérarchiser la cuisine sans tomber dans des biais occidentalo-centrés? Et d'abord, la critique culinaire, est-ce que c'est pas un truc de riche par hasard? Dans cette série, mettons les pieds dans le plat et allons disséquer le travail des plumes, tantôt enjôleuses, tantôt acerbes, qui semblent faire la pluie et le beau temps sur la réputation des restaurants. Partons à la rencontre de ce métier mystérieux et parfois, ironiquement, critiqué. Un jour pour ses courbettes injustifiées, le lendemain pour son injuste sévérité. Alors, de quoi la critique gastronomique est-elle le nom ? Le célèbre auteur culinaire français Jean-Anthelme Brillat-Savarin définit la gastronomie comme « la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit ». Et si l'on prend l'ensemble des productions littéraires liées à ses regards portés sur l'alimentation, si l'on mesure toute la diversité de ses documents écrits, on obtient une histoire de la gastronomie qui devient un précieux témoin des us et des coutumes de nos sociétés. Manger, écrire, manger, lire, manger des aliments puis ne pas mâcher ses mots pour en parler, les mots comme la bouffe, tout passe par la bouche. Dans ses confessions, Rousseau déclarait même « lire en mangeant fut toujours ma fantaisie ». Chercher la métaphore gastronomique encodée dans un texte littéraire revient à découvrir que la chair s'est transformée en logos et que le corps est parlant. Et pourtant, qu'y a-t-il de plus normal que de retrouver inscrits dans la littérature les deux actes par lesquels se distingue l'espèce humaine, manger et parler ? Se demande ainsi Ronald W. Tobin, professeur de français à l'Université de Californie, dans un texte intitulé « Qu'est-ce que la gastrocritique ?» Après tout, nous accomplissons des actes oraux au cours d'un repas, dont la grammaire culinaire a déterminé le choix, la préparation et la consommation. Cette attention à la forme que peuvent prendre les textes gastronomiques, on la retrouve particulièrement chez Aitor Alfonso et Ryoko Sekiguchi. Le premier est journaliste gastronomique et il tient fortement à l'idée de diversité des tons et des formats pour parler de la chose alimentaire. L'une de ses approches préférées est notamment celle de l'humour.
Je m'appelle Aitor Alfonso, je suis critique gastronomique, disons-le, métier péremptoire, et j'écris sur les choses alimentaires sous différents formats, parce que je tiens aussi à la diversité des formats et des tons et des registres, ça me semble très important. Je pense que chaque format appelle son style et son ton. Donc je fais des choses très humoristiques sur Instagram, des mèmes, mais je fais aussi des articles très sérieux, voire académiques, sur de longues interviews, des reportages, des portraits, et puis j'écris aussi de la chronique.
La seconde, Ryoko Sekiguchi, est poétesse et traductrice japonaise. Elle a notamment écrit « Nagori, la nostalgie de la saison qui s'en va », un essai dans lequel elle interroge la place de l'alimentation dans notre rapport au temps qui passe. Ou encore « Fade », dans lequel elle remet en perspective ce qu'on entend par l'absence de goût et la complexité de cette notion.
Ryoko Sekiguchi, auteur de la littérature et de tout ce qui nous nourrit, traiteur littéraire. Voilà. Et je dirige aussi une petite collection littéraire donc qui s'appelle Le Banquet. Et je publie aussi donc les auteurs japonais qui écrivent sur la nourriture.
Pour Aitor, l'exercice de la critique gastronomique suppose la maîtrise d'un certain rythme dans l'écriture, mais aussi une volonté tenace de traduire l'assiette.
Pour moi, une critique gastronomique, ça a sa cadence propre. Pour moi, une critique gastronomique, ça va vite, ça avance, ça pose une sorte d'avis qui ne s'attarde pas. Faut pas s'apesantir quand on écrit une critique, à mon avis. C'est un style qui court, qui est bref et qui court, quoi. C'est du 100 mètres. Alors qu'un reportage ou une interview, c'est un style plus long, c'est plutôt du demi-fond, tu vois. Voilà, donc déjà ça, et puis ensuite, idéalement, bon, qu'est-ce que c'est qu'un critique gastronomique ? Pour moi, un critique gastronomique, c'est un traducteur de plats. Dans ce sens que, si on estime que la cuisine est une forme de langage, c'est-à-dire un ensemble de signes réunis, eh ben, il faut se mettre à l'écoute d'un plat. Et se mettre à l'écoute d'un plat, ça peut vouloir dire plein de choses. Il y a un ton, un style, un propos, ça dit quelque chose du monde, sans doute, hein, Et donc, tu vois, si on joue les Roland Barthes à fourchette, on pourrait dire que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de concevoir une cuisine ou une assiette comme une sémiologie, en fait. Un ensemble de signes. Mais c'est ce que tu fais, toi, dans Bouffon, au fond. C'est-à-dire, quand on dit l'assiette est politique, on ne dit pas autre chose. Mais l'assiette, elle est aussi poétique. Elle est aussi sociologique. Elle est aussi écologique. Elle est aussi, toi, elle dit plein de choses. Donc, l'enjeu, c'est qui, voilà, le critique gastronomique, c'est celui qui se met, qui tend l'oreille. Qui tend la langue, si j'ose dire, pour raconter l'assiette. Alors l'assiette et pas que, parce qu'évidemment il faut lever son nez de l'assiette. Et je pense qu'un critique gastronomique, c'est aussi quelqu'un qui raconte un lieu, une époque, des mœurs de table, des manières de table, comme on dit, voilà. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est ce projet d'écriture-là. Parce qu'au fond, un critique gastronomique, c'est raconter un lieu, souvent un restaurant quand même, parce que c'est souvent là que ça a lieu, comme un spectacle un peu total, quoi.
Cette volonté de traduire, mettre en perspective, analyser, on la retrouve également chez Ryoko Sekiguchi, qui estime que la critique rend partageable la nourriture au plus grand nombre.
La cuisine a un rapport, mais vraiment très étroit avec les mots. Et puis, souvent, on pense que la cuisine, c'est une affaire très subjective et que c'est très difficile de partager la sensation. Mais je pense qu'on se trompe parce que c'est, bien sûr, et ce qui n'est pas partageable, les mots les rend partageables. Et je pense que pour cela, le travail, soit d'écrivain culinaire ou bien de critique culinaire, c'est de décrypter, d'analyser, d'être aussi partir des éléments très concrets, parce que c'est un plat est très concret, et pour arriver aussi à saisir le message qu'émet un plat, qu'il soit gastronomique ou ça peut être un simple plat de pâtes. Il peut en fait tout aussi nous envoyer un message.
L'enjeu est finalement celui d'un projet littéraire. Aitor insiste sur le fait qu'il s'agit de dépasser l'avis péremptoire et limitant qui consisterait à simplement décider si un plat est bon ou non.
Je pense qu'un bon critique gastronomique, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de dire c'est bon, c'est pas bon, mais c'est quelqu'un qui essaye de traduire ce que le restaurant veut dire, le restaurateur et ses assiettes. Parce que quand même, c'est un métier, ça ne consiste pas qu'à manger au restaurant à l'œil. C'est aussi un métier, c'est un métier d'écriture. Il y a là un projet d'écriture quand même, un projet sinon littéraire, du moins narratif. Alors d'écriture ou pas que, parce qu'effectivement aujourd'hui ça peut prendre d'autres formes, orales, filmées, etc. Et bon, l'enjeu c'est de restituer, de rendre compte de quelque chose qui se joue.
Ryoko, elle, semble avoir trouvé l'ennemi de la critique gastronomique. Les expressions alambiquées et le style ampoulé. D'après l'autrice, le fait de vouloir absolument apposer un filtre esthétisant à la nourriture lorsqu'on prend sa plume pour en parler est le parfait moyen de s'éloigner du message principal et de sa sincérité. Elle invite donc à ne surtout pas tomber dans la facilité des fioritures langagières. La poésie est, selon elle, très dangereuse.
C'est très dangereux. Bon, bien sûr, comme j'ai commencé ma carrière en tant que poète, donc on me dit souvent, ah oui, non, mais ce que tu écris est poétique, et c'est un compliment, je sais. Mais en même temps, je pense qu'être poétique, enfin déjà, le mot poétique est très dangereux, et que à la limite, les gens qui écrivent mal causent moins de dégâts que les gens qui sont considérés comme ayant des belles plumes, et qui finalement se cachent pour ce style, pour ne rien dire. Et c'est dangereux, surtout parce que on croit que c'est ça la poésie et c'est ça la bonne critique gastronomique qui parle de belle façon un plat. Alors que je pense que ce genre d'écriture, on s'entend écouter, on n'est pas face à un plat. Quand on est face à un plat, ce qu'on voit, ce sont des éléments concrets. Comme nous, les êtres humains, voilà, on est là, on a un corps, on sent, on écoute, on voit et on se parle. Et en fait, je pense que ce sont des accumulations de ces éléments concrets qui fait que qu'on fait la description de ce plat comme qu'on fait le portrait d'une personne.
L'enjeu est d'autant plus grand, selon Ryoko, que tout écrit n'est pas qu'un texte qui va être agréable à lire pour nos contemporains, mais bien une archive pour les temps à venir.
Tous les écrits servent donc tous les domaines. Je pense que c'est pas seulement pour la cuisine, aussi pour le cinéma, pour la musique, pour tous les domaines de création, même pour l'artisanat. La production, la création faite par les hommes ont besoin des écrits, des mots. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est les choses auxquelles on n'y pense pas souvent. Par exemple, quand on écrit un roman, bon, bien sûr, on pense non seulement à des lecteurs d'aujourd'hui, mais des lecteurs du futur, en fait. On pense un peu à la postérité. Alors que quand on écrit un texte critique gastronomique, on ne pense pas à être lu dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. Mais ce qui est toujours le cas, c'est-à-dire que tous les écrits deviennent les archives, c'est ce que qu'on lit les écrits de Grimaud de la Reynière, par exemple, et comme ça que qu'on peut saisir un peu le l'air de l'époque. Donc moi, j'ai tendance à voir toujours de façon, en fait, c'est de d'avoir ce double regard, c'est-à-dire de dire en tant que personne contemporain et aussi en imaginant celui qui va le lire dans son temps.
Situer et restituer, voilà donc très certainement ce qui permettra aux écrits culinaires de traverser les époques. Pour Aitor, il y a donc un intérêt à aiguiser son regard.
Ce qui affine un regard et une écoute, c'est d'être allé beaucoup au restaurant. Parce qu'effectivement, c'est comme tout. Le critique littéraire, il est bon quand il a lu beaucoup, le critique de cinéma quand il a vu beaucoup de films. Parce que simplement, tu te crées une culture, et qui dit culture dit possibilité de comparer, de situer un restaurant, une cuisine dans le vaste champ des cuisines. Tu vois, ça forme un ensemble. Voilà. Et cet ensemble, tu peux essayer de le comparer. Alors, il y a des fois où je vais au restaurant et je passe totalement à côté de ce que me dit un plat. Il y a aussi des ratés. Bon, voilà. On aime plus ou moins. On est plus ou moins ce jour-là disponible ou peut-être sensible à telle ou telle cuisine. À vrai dire, je crois que comme je suis tellement allé au restaurant et que j'y vais tellement encore et que j'ai pris l'habitude de me laisser un peu surprendre par un lieu, j'essaye d'y aller le plus vierge possible. Et j'essaye vraiment d'y aller un peu de prime abord. Tu vois, la première impression, c'est de rien trop préparer et d'essayer de se rendre comme ça disponible à ce qui se passe dans un lieu. Et puis ensuite, quand même, un menu, c'est scénarisé. Un menu, c'est un scénar, c'est un scénario. Il y a des entrées, des sorties, un début, un milieu, une fin. Donc essayer de lire ce scénario, de comprendre comment il a été fait, tu vois. Par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, je suis allé au Perchoir, où cuisine Alice Arnoux, une jeune cuisinière, et son menu, il est composé comme un long plateau repas de 2 heures. Ben ça, j'ai trouvé ça assez génial d'un point de vue de l'écriture d'un repas, tu vois. Donc, j'aime bien toujours cette analogie littéraire, parce qu'en fait, elle me semble quand même assez pertinente.
J'ai ensuite voulu savoir à quoi ressemblent les boîtes à outils d'écriture de Ryoko Sekiguchi et d'Aitor Alfonso. À quelles astuces rhétoriques, à quelle gymnastique des mots, ces deux plumes ont-elles recours pour donner à lire la chose culinaire? Pour Ryoko, l'important est de ne surtout pas s'installer dans un style. Il faut, à l'inverse, être disposé à se laisser surprendre par un plat pour se sentir capable de réinventer les manières d'en parler. C'est ainsi qu'elle s'est un jour surprise à écouter parler les petits pois qu'on lui avait servis.
L'année dernière, il y avait un plat qui m'a beaucoup, beaucoup émue, en fait, dans un restaurant à côté de Haïti, au Japon, qui est fait par un chef qui, bon, bien sûr, qui est aussi un potager, puis qui nous a servi un plat, des petits pois, et avec un peu de menthe. En fait, il n'y avait rien d'autre. Mais ces petits pois, j'avais l'impression que les petits pois m'ont regardé. Et j'étais, bien sûr, bon, j'étais là pour faire un reportage sur le chef, mais j'étais aussi avec ces petits pois qui ont parlé avec le chef et ils étaient là aussi pour parler avec moi. Et puis, qui me regardaient et qui me disaient, mais pourquoi tu es venu? Enfin, qu'est-ce que tu viens faire? Et je me suis dit, enfin, j'ai dit à mes petits pois, c'est vrai, c'est une bonne question. Tu me poses des questions, enfin, je vais réfléchir. Et en fait, ce qui est bien, c'est que il y a toujours une remise de questions en tant qu'écrivain, quand un plat me pose des questions. C'est-à-dire que, par exemple, ces petits pois m'ont fait réfléchir sur ma façon d'écrire et de faire un reportage. Bon, bien sûr, quand on fait un reportage, il y a des éléments qu'on met, voilà, l'ambiance, la région, le parcours du chef, enfin, il y a des formes et des formules. Et je me suis dit, bon, je vais oublier tout ça, je vais être d'abord sincère avec ce petit pois, et puis de d'écouter alors la voix de petit pois, en fait, et aussi le chef qui a laissé vivre ces petits pois, en fait, et c'est comme ça que, c'est aussi comme ça que non seulement on arrive à parler de ce plat, mais on arrive à parler de celui qui l'a fait.
Aitor, lui, affectionne tout particulièrement le recours aux analogies, aux comparaisons qui font mouche, aux métaphores parlantes.
J'essaye d'éprouver, de ressentir, de laisser place à l'analogie aussi, c'est-à-dire dans quoi j'ai l'impression d'être, dans quoi on veut me mettre, quel est le décor, quel est le récit, quoi. Tu vois, qu'est-ce que ça raconte, quoi. C'est vraiment ça. Essayer d'entendre ça. Et puis ensuite, d'essayer de trouver les mots justes pour le dire. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien aller au restaurant avec quelqu'un d'autre, alors aussi parce que c'est agréable, et parce que quand il va avec quelqu'un qui est à l'écoute, le fait d'en parler avec l'autre personne, enfin, ça te fait déjà mettre des mots dessus. Donc par tâtonnement, par échange, la vie de l'autre aussi, il vient comme fourbir le tien, tu vois. C'est comme un jeu mutuel aussi. Et donc voilà, en fait, l'enjeu du critique gastronomique, c'est de trouver des mots pour le dire. Et comme d'habitude, quand tu manges, tu parles de ce que tu manges. Parce que ça démultiplie l'expérience, le plaisir, et puis ça rend intelligible un repas. Enfin, il y a vraiment une recherche d'intelligibilité comme ça, tu vois. Et je pense que Ryoko, c'est ce qu'elle fait, en fait, tu vois. Et au-delà de la critique gastronomique... Elle essaye de rendre intelligible. Enfin, on mange aussi du sens, tu vois. C'est-à-dire qu'on mange aussi un propos.
Le goût pour les analogies, c'est aussi ce qui anime Ryoko, qui, dans son essai Nagori, fait remarquer le lien qu'il y a entre la trace que laisse une vague qui passe sur la plage et la nostalgie d'un fruit dont la saison vient de nous quitter. Alors voilà, l'idée d'une critique culinaire pensée comme un genre littéraire renouvelé, c'est finalement celle de l'agilité formelle. Aitor, comme vous l'avez déjà entendu dans un précédent épisode sur la pizza hawaïenne, est ce qu'il appelle lui-même un artisan mémier. Sur son compte Sauce Gribiche, il partage régulièrement ses mèmes qui apparaissent alors comme autant de petites vignettes caustiques sur nos comportements à table. Un jour peut-être, on étudiera l'œuvre mémologique d'Aitor de la même manière qu'on analyse aujourd'hui les personnages grotesques des caricatures du Moyen-Âge que l'on retrouve dans les miniatures d'église.
Alors moi, par exemple, je fais beaucoup de mèmes. Alors pour moi, le mème, c'est la vignette détournée hyper reproductible. Et en fait, ce que je raconte sur Instagram avec ce format-là, c'est moins l'assiette et ce que je mange que des mœurs. C'est-à-dire, j'ai la prétention, sans doute excessive, de jouer un peu au petit moraliste 3.0. Moraliste, pas moralisateur, hein, pas celui qui donne des leçons morales, mais un peu celui qui dépeint les mœurs de ses contemporains, et notamment des foodies, des chefs, des restaurants, enfin bref, des gens comme moi en fait, parce qu'au fond, ce que je brocarde gentiment, c'est moi-même quoi, tu vois. Donc en fait, c'est ça qui est amusant avec le mème. Le mème, ça permet de raconter autre chose qu'une sauce bien liée ou qu'une asperge parfaitement cuite. Ça permet de dire ça, mais ça permet surtout de dire les pratiques sociales et les pratiques un peu théâtrales quoi, qui sont à l'œuvre et parfois un peu ridicules de nous autres quoi.
Le mois prochain, le chroniqueur participera au concours du meilleur pâté en croûte.
quand j'ai reçu ce SMS, salut, est-ce que tu veux participer au jury du pâté en croûte? J'ai répondu au type, mais en fait, j'ai envie de faire que ça dans ma vie, finalement. Parce que ça unit mes deux passions qui sont manger et juger. Non, plus sérieusement, alors d'abord, ce qui m'a plu dans ce concours, c'est que c'est un concours amateur. Que évidemment, ce qui m'a plu dans ce concours, c'est qu'il y a du pâté en croûte, qui est quand même un truc formidable, délicieux, très à la mode aussi d'ailleurs. Et que c'est organisé par un journaliste vraiment sympathique, qui a créé une peluche pâté en croûte, s'appelle Jean Croûte. Et voilà, avec un jury paritaire, ce qui n'est pas le cas de tous les concours de pâté croûte. Et dans un ton aussi un peu enlevé, amusant, amusé, ludique, d'amateur éclairé, que j'aime particulièrement. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, je suis pas mof, je donnerai jamais des leçons à qui que ce soit sur comment il faut faire un pâté croûte. En revanche, en tant que mangeur un peu attentif, ça m'amuse assez cette idée que de déguster des pâtés croûtes, surtout que j'ai l'impression que c'est un objet extrêmement déclinable. C'est-à-dire qu'au fond, un pâté en croûte, tu peux l'aimer parce qu'il est ultra classique, ou l'aimer parce qu'on l'a emmené à un endroit totalement inattendu, quoi. Donc voilà, c'est amusant. Et puis il y a aussi ce truc de la collégialité. C'est-à-dire, tu dégustes un pâté croûte ou plusieurs, et tu confrontes tes impressions à celles des autres. Et dans cette confrontation, à mon avis, il y a des choses intéressantes. Parce que ça stimule la production des mots dessus, quoi, d'essayer de mettre des mots là-dessus. Voilà. Et puis de les classer ensuite. Voilà.
Des concours de nourriture, il y en a de plus en plus fréquemment. Le championnat du monde de l'œuf mayo, le championnat du monde de barbecue au Sainte-Marie-de-la-Mer, auquel j'ai moi-même participé en tant que jury pour un article dans Libération. Aitor rappelle qu'en plus d'être une manière ludique et joviale de critiquer la nourriture, le concours est une véritable passion française.
Moi, je pense que c'est pas qu'une affaire de cuisine. Moi, je pense qu'il y a une passion française pour le concours. Je pense que la société française adore les concours. Je veux dire, sans aller trop loin dans l'analogie, moi, j'ai fait Normal Sup, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire la mise en scène du concours en France, la patente du concours, le fait d'avoir été l'élu à un concours, etc., etc., c'est un truc très français. En fait, la France adore l'élitisme. En fait, c'est une espèce de cérémoniel de la désignation des élites. Et c'est drôle parce que ça allie deux choses. C'est-à-dire c'est à la fois cette espèce de gloire française d'appartenir à une sorte de noblesse, mais d'une noblesse du mérite. Celui qui est le meilleur cuisinier, le mof, le 3 étoiles ou le meilleur pâté croûte est élu. Donc c'est drôle, j'ai l'impression que ça allie deux espèces de régimes de valeurs qui seraient celui de l'ancien régime, c'est-à-dire une noblesse, à laquelle en fait je crois au fond fantasmatiquement la France est encore super attachée. Et en même temps, une sorte de valeur du mérite. Tu vois, ce serait une sorte de noblesse par le mérite, quoi. Une espèce de contradiction, voilà. Et donc, je pense qu'il y a en France une obsession pour l'excellence. Et d'autant plus dans cette activité culturellement considérée comme au-dessus du reste, quoi, qui est la cuisine française. En fait, je pense qu'il y a un culte français pour l'excellence. Qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Alors, il y a un symptôme de ça qui est assez net. C'est, par exemple, Top Chef, ça cartonne en France, parce que c'est des pros. Master Chef a marché un temps et puis moins, alors que dans d'autres pays, l'émission qui marque, c'est Master Chef. C'est-à-dire des amateurs qui s'y mettent, qui font ça sérieusement, mais qui restent des amateurs et qui parfois font ça un peu pour s'amuser. Bon, en France, on rigole pas trop avec ça, quoi. Et tu vois, je pense que même dans les concours du pâté croûte amateur ou des œufs mayo, les gens se prennent vraiment au jeu.
Renouveler les manières d'approcher la critique gastronomique, Ryoko, elle, l'a notamment fait avec le chef étoilé Alexandre Gauthier.
Pour le livre d'Alexandre Gauthier, j'ai opté pour des blocs de texte où chaque fois il y a des petits êtres, en fait, qui sont des ingrédients, mais qui sont des petits êtres qui parlent comme une sorte de pièce de théâtre. Donc, et je pensais que pour la cuisine d'Alexandre Gauthier, en fait, on avait besoin. Enfin, c'est les plats qui m'ont demandé cette forme-là. Et donc, je pense que non seulement il faut réfléchir au contenu, mais aussi à la forme.
À l'occasion d'un numéro spécial de la revue Tempura, Ryoko, qui était rédactrice en chef invitée, m'a proposé de participer à un exercice d'écriture que j'ai beaucoup aimé. Une critique culinaire évanescente, qui consistait à parler d'un élément culinaire qui n'est ni japonais, ni situé au Japon, mais qui pourtant nous renvoie instantanément à une certaine idée du Japon. J'avais alors adoré écrire ce texte en prose pour comparer une poire au chocolat et un daikon croisé un soir dans un resto à Oden, à Kyoto.
Donc j'ai demandé à quatre critiques, donc Esther Elpani, Alicia Doré et toi et François Simon, de nous raconter une sorte de, enfin de d'inventer un récit, comment un quelque chose qui n'a un goût par exemple ou bien une situation qui n'a pas de rapport avec le Japon peut aussi déclencher une sorte de machine à la nostalgie ou bien de télescopage des images. Parfois, on peut être dans le fin fond de café, de Kentucky, et puis bon, on peut penser « Ah, c'est comme au Japon !» Et qu'est-ce qui fait que qu'on sent que c'est qu'on est au Japon? Est-ce que c'est l'odeur de bois? Est-ce que c'est l'odeur de café? Est-ce que c'est la façon de c'est une sorte de qualité de silence? Donc en fait ça peut jouer à beaucoup de choses et donc chacun a raconté son propre histoire avec ce qui apporte pour eux cette terre du Japon, le goût du Japon.
Mes discussions avec Aitor et Ryoko ont naturellement dévié sur la critique des critiques gastronomiques. Pour tordre le cou à l'image du critique intransigeant, désagréable et ou impoli qu'on a évoqué plusieurs fois au cours de cette série, Aitor s'interroge sur une manière de rompre peut-être la verticalité de la critique.
En fait, moi, je réfléchis beaucoup, tu sais, en ce moment, à qu'est-ce qui fait problème dans la critique gastronomique traditionnelle ? C'est-à-dire, pourquoi, surtout quand la critique est négative ou nuancée, ça agace tellement les chefs, tu vois? Alors moi, j'ai un peu l'impression que l'un des problèmes de ça, c'est la modalité de publication d'une critique. Mais pas que en cuisine, en cinéma, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, le critique publie dans un journal ou dans un média une critique comme il n'y a pas de droit de réponse, il n'y a pas de contre-avis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au fond, la critique du critique, elle est publiée comme une espèce de vérité transcendante et absolue, sans qu'il y ait de pondération par un avis divergent. Alors moi, je réfléchis beaucoup en ce moment à des manières pour que la critique soit pondérée immédiatement par objectée. Je pense que cette figure solitaire, un peu divinisée, comme un peu transcendante du critique, gagnerait à être redescendu sur Terre et au fond de rappeler qu'en fait, c'est jamais qu'un avis, quoi.
Sur ce sujet, Ryoko pense qu'il serait riche que les critiques gastronomiques se nourrissent davantage des regards d'autres critiques dans d'autres domaines.
Par exemple, au Japon, il y a une sorte de jeu justement de mise en abyme. J'ai dit qu'en fait, tous les domaines de créatifs ont besoin de critiques et c'est-à-dire que le critique a besoin de critiques. Et là, en disant ça, ce n'est pas les chefs qui font ces critiques. En fait, il faut, par exemple, une fois, j'ai organisé un dîner avec 6 critiques de domaines différents, donc critiques cinéma, critiques littéraires, critiques d'art, en fait, qui mangeaient tous la même chose et qui ont rendu le texte critique. Et c'était super intéressant parce que on avait tous les outils en tant que critique, mais qu'on ne voyait pas la même chose, on ne sentait pas la même chose et que donc déjà, donc je pense que le critique gastronomique en rend beaucoup à apprendre aussi, par exemple de critique de parfum, de critique de critique d'art. On devrait avoir plus de comme ça de d'exercices de regard. On doit s'exposer aux comparaisons aussi en fait pour avancer dans notre métier de critique culinaire.
Après ces 4 épisodes sur la critique gastronomique, une chose paraît sûre. Comme toute activité professionnelle, la pratique de la critique mérite d'être encadrée. Elle mérite de reposer sur des valeurs claires, de poursuivre des objectifs établis et d'avoir des garde-fous. C'est notamment pour répondre à ce défi que le premier congrès du journalisme gastronomique a été organisé. Cette première édition a eu lieu en octobre 2022 à Minorque, alors région européenne de la gastronomie. À l'issue de ces quelques jours de discussion, une déclaration éthique a été rédigée. Le journaliste gastronomique Stéphane Méjeunesse y était et nous en parle.
L'idée de l'association, c'était aussi de produire une déclaration éthique à l'issue de ce congrès que nous avons donc travaillé tous ensemble et qui s'est incarnée dans une charte en 10 points. Bon, je ne vais pas détailler tous les points, mais les têtes d'affiche sont liberté d'opinion, rigueur analytique, durabilité sociale, durabilité environnementale aussi, enrichissement culturel, diversité culturelle, pérennité économique, ça cela concerne les restaurants, alimentation saine, impact local et d'équipe, c'est plutôt la dimension donc sociale du restaurant, de l'alimentation, et équité, avec une visibilité de la diversité et des minorités. Ce qui m'a paru intéressant, c'est que ça s'appuie sur deux idées. En fait, il y a à la fois la défense de la profession. Je cite, face à la profusion de contenus banals et dans de nombreux cas intéressés, dans les forums et les réseaux sociaux et la précarité croissante des conditions de travail, la défense et la réaffirmation de la profession journalistique comprise de toute urgence comme un travail intellectuel qui nécessite un travail de terrain de vérité et une réflexion personnelle visant à susciter le débat. Ça, c'est vraiment pour la partie de défense de cette profession. Malheureusement, cela paraît nécessaire. Et l'autre volet qui me paraît aussi important, c'est que, au-delà d'être simplement quelqu'un qui recommande des restaurants, ce qu'envisagent beaucoup de critiques gastronomiques, sur fond de j'aime pas, le plus souvent j'aime d'ailleurs, il y avait dans cette déclaration éthique cette notion que, en fait, au-delà d'être quelqu'un qui recommande des restaurants à des futurs clients, le journaliste a aussi peut-être une mission de préservation, notamment, d'un certain patrimoine. Donc, le deuxième point qui résume cette déclaration éthique, je le cite, c'était « Nous sommes les gardiens de ce patrimoine gastronomique et nous avons une responsabilité fondamentale, le préserver pour le transmettre aux générations futures ».
Vous l'aurez compris, le métier de critique gastronomique consiste à bien plus que de donner son avis sur un restaurant. Il implique de saisir le goût de l'époque, le mettre en perspective, le sonder, le restituer, tout en participant à construire ce qui sera plus tard, à n'en point douter, une archive de l'évolution de nos patrimoines culinaires. Cette large mission va de pair avec une responsabilité, celle de travailler avec sérieux et indépendance et dans le respect tout à la fois du lectorat qui accorde sa confiance et du secteur de la restauration qui travaille d'arrache-pied à soigner la fonction nourricière de notre société. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Diane Le Sieur et Neila Acme. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.